Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on revient ce matin sur les grandes manifestations qui ont défrayé la chronique il y a maintenant un peu plus d'un an, pour la procréation médicale assistée pour tous, ou alors contre le mariage pour tous, et on se demande ce qui se cache derrière ces positions tranchées. Alexis Scudero, vous publiez un livre aux éditions du Monde à l'envers, un livre intitulé « La reproduction artificielle de l'humain ». Vous allez nous expliquer ce que c'est, mais d'abord, je voudrais vous demander, vous avez manifesté, vous, pour la procréation médicalement assistée pour toutes et tous ? C'était il y a à peu près 2 ans maintenant, 1 an et demi ?
Alors, non, je n'ai pas manifesté pour la procréation médicale assistée, évidemment, puisque le livre... critique de la procréation médicale assistée.
Mais vous n'avez pas non plus manifesté contre.
Voilà, je n'ai pas manifesté non plus contre. Enfin, je n'ai pas participé à la manif pour tous ou aux manifestations contre le mariage homosexuel. L'idée du bouquin, si je peux commencer d'emblée dans le vif du sujet, c'est justement de dire que la question n'est pas autour de l'extension de la procréation médicale assistée aux personnes homosexuelles. Ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est qu'il faut refuser la PMA pour les homosexuels comme pour les hétérosexuels.
La PMA pour personne.
Voilà, la PMA pour personne.
Avant d'expliquer pourquoi, peut-être on peut commencer par s'interroger sur le fait que, en effet, quand on y réfléchit, la société a été scindée entre ceux qui étaient dans les manifestations pour cette extension de la PMA et ceux qui étaient dans les manifestations contre. Et c'est comme s'il avait fallu absolument se positionner, se déclarer dans l'un ou l'autre camp, comme si c'était les seuls camps possibles.
Effectivement, on était sommé en fait de se positionner pour ou contre la PMA, et derrière ça, de se positionner pour ou contre l'homosexualité. Le problème pour moi, il n'est pas du tout là. On a à droite, on va dire, une manif pour tous qui s'oppose au mariage homosexuel, qui s'oppose à la procréation médicale assistée, à l'adoption par les homosexuels, sur des motifs qui sont... en tout cas, qui ne sont pas les miens. Je ne partage pas l'idée de la manif pour tous qui voudrait que des homosexuels ne peuvent pas élever des enfants, qu'ils seraient incapables de leur donner l'amour, l'éducation dont ils ont besoin. Je ne partage pas non plus les idées de la manif pour tous sur le genre, par exemple. Je pense qu'effectivement, le genre existe. Les garçons et les filles sont issus d'une construction sociale. Et de cette construction sociale, ils occupent des positions différentes dans la société. Tout ça, je ne le partage pas avec la manif pour tous. À l'opposé, on a une gauche qui s'est positionnée en faveur de la PMA et qui, par peur de la droite, de l'homophobie, des discriminations, a pris le parti de défendre à tout prix les revendications qui sont celles d'une partie des homosexuels, mais pas que, qui sont celles d'une partie de la gauche. Voilà. En gros, si vous êtes contre la PMA, vous êtes homophobe, et si vous n'êtes pas homophobe, forcément, vous devez prendre parti pour la PMA. Dès l'introduction du livre, moi, j'ai essayé de sortir de cette fausse opposition et de dire « Non, la question n'est pas là, je refuse la PMA, pour les uns comme pour les autres. »
Et donc, pour quelles raisons ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Pour résumer, je dirais que la procréation médicale assistée, elle soumet les hommes et les femmes à ce que moi, j'appelais une technocratie en blouse blanche, des experts, des médecins, des généticiens, des biologistes, qui du coup s'arrogent un pouvoir sur la procréation. Il y a une perte d'autonomie des couples dans le domaine de la procréation. Par exemple, il est insensé que l'insémination artificielle, qui est une pratique en fait qui ne nécessite pas d'être médicalisée, on vous dirait qu'il suffit d'un pot de yaourt et d'une seringue pour réaliser une insémination artificielle à domicile, de manière artisanale, je trouve ça insensé qu'elle soit appropriée par des médecins et qu'il y a une mainmise de l'institution médicale sur ces pratiques-là. La deuxième raison pour laquelle je critique la procréation médicale assistée, c'est je pense qu'elle est intrinsèquement liée à l'eugénisme. Tant parce qu'on sélectionne les donneurs de sperme ou les donneuses d'ovules, que parce qu'on sélectionne aussi maintenant, par le biais du diagnostic préimplantatoire, les embryons. Donc, pouvoir des experts, eugénisme, je rajouterai quelque chose... Alors, on est plus loin que la PMA, mais du coup, la fécondation in vitro, commence à permettre la manipulation génétique des embryons. Et là, du coup, on ouvre la voie au transhumanisme. Le transhumanisme, c'est l'amélioration de l'espèce humaine par le biais de la technologie. Voilà, on va dire que c'est les trois principales choses qui font que je critique.
On va développer tous ces points, Alexis Escudero, bien entendu. Mais d'entrée de jeu, je voudrais vous interroger sur une question que vraisemblablement un certain nombre de personnes se posent, c'est que faites-vous de la compassion à l'égard des couples stériles qui ne peuvent pas avoir d'enfants? Vous avez dit on peut très bien faire de l'insémination artificielle à la maison. Ce dispositif médical que vous étiez en train de critiquer s'est mis en place, vous rétorquera-t-on, pour venir en aide à des gens qui étaient dans le désarroi?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que dans le premier chapitre du livre, j'essaye de montrer que justement, cette demande de procréation médicale assistée, elle ne vient pas de nulle part. Et j'explique que depuis le début des années 90, il y a des scientifiques qui ont tiré la sonnette d'alarme sur l'augmentation de l'infertilité, notamment sur le déclin de la qualité du sperme. On sait qu'aujourd'hui, entre 18 et 24% des couples qui essaient d'avoir un enfant n'y arrivent pas un an après l'arrêt de la contraception. Cette diminution de la fertilité, on la doit avant tout à la dissémination dans l'environnement de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Ce sont des pesticides, ce sont des phtalates, des choses contenues dans les PVC. On a beaucoup parlé du bisphénol A, qui était contenu dans le plastique des biberons des bébés, qui est dans les boîtes de conserve. Ce sont des dioxines, ce sont des solvants, ce sont des hormones de synthèse, notamment celles utilisées dans l'élevage animal. Il se trouve qu'une grande partie de ces substances-là sont en plus ce que les écologues appellent des polluants organiques persistants, c'est-à-dire des substances qui ne se dégradent pas dans la nature, mais au contraire se déplacent, notamment parce qu'elles remontent la chaîne alimentaire. Par le biais de l'alimentation, elles se transmettent dans le lait, elles se transmettent dans les œufs des animaux.
C'est le processus d'accumulation.
C'est ça. Et ces substances, elles causent, par des mécanismes qui sont finalement assez peu étudiés, une diminution de la fertilité, une diminution de la concentration en spermatozoïdes du sperme. Elles créent aussi des malformations génitales. On a une augmentation des malformations génitales chez les petits garçons, chez les petites filles. On a une augmentation de l'incidence du cancer du testicule. Bref, plein de choses qui, mises bout à bout...
L'augmentation de la féminisation de la population aussi.
Ouais, effectivement, chez les animaux et maintenant chez les humains.
Et plus particulièrement, vous le soulignez dans le livre, dans les régions industrialisées.
Effectivement, voilà. On s'est aperçu que des études en Espagne, par exemple, montraient que dans les régions les plus industrialisées, c'est là que les malformations génitales sont les plus nombreuses et que la concentration en sperme est la plus basse. Tout ça fait que la demande sociale de PMA, elle doit être questionnée au regard de cette pollution et que, j'ai envie de dire, si on est écologiste et radical, qu'on prend les choses à la racine, avant de se poser la question de il faut développer la procréation médicale assistée pour aider les couples en difficulté. Posons-nous d'abord la question de pourquoi il y a tant de couples aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire d'enfants. Et la réponse, c'est la pollution industrielle. Moi, je voudrais voir les écologistes, ces gens-là, demander avant la PMA qu'on ferme les usines de PVC, qu'on interdise la viande aux hormones, qu'on ferme les industries chimiques qui polluent, tout ça. Avec la demande de PMA, on entre dans un cercle que certains appelaient la fuite en avant technologique. C'est-à-dire qu'un problème créé par l'industrie et par la technologie, ici la pollution, au lieu de répondre par une solution politique qui serait on arrête de produire, on arrête de mettre des pesticides dans les champs, on répond par une solution encore technologique et industrielle qui va causer encore de nouveaux dégâts qu'encore une fois la technologie devra résoudre. Et c'est un puits sans fond.
Et qui est aussi une forme d'acceptation de ce système industriel et économique.
Complètement. Et je reviens sur votre question sur que dire aux... C'est un petit peu ça votre question, que dire aux couples en fait qui demandent des enfants? Bon, effectivement, d'abord, y a cette idée que la demande d'enfants, elle est créée par la pollution, mais ça répond pas complètement à la question. L'autre chose que j'aurais envie de dire, c'est... Un, il est possible de construire une filiation et d'avoir des enfants autrement qu'en recourant à la procréation médicale assistée. Je pense notamment à l'adoption, qui n'est pas un parcours facile, hein, bien sûr, mais qui est, que moi je trouve aussi légitime que la reproduction normale, quoi, on va dire, ou artificielle. Et puis l'autre question à se poser, c'est Pourquoi, dans un monde déjà surpeuplé, est-ce que l'infertilité, pourquoi est-ce qu'elle est devenue un tel problème de société? Et pourquoi est-ce qu'on a décidé, dans les années 80, d'investir tant de fonds, d'argent, d'énergie, de recherche pour lutter contre l'infertilité, alors qu'il me semble, moi, qu'il y a des questions bien plus pressantes dans ce monde-là.
Par exemple.
En fait, des choses toutes bêtes, mais l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation, l'accès à l'alimentation pour tous les enfants qui sont déjà sur cette planète, et des questions liées à l'épuisement des ressources, à ces choses-là, c'est assez fou qu'on dépense tant d'énergie pour produire encore des enfants à un moment où la Terre ne peut plus contenir plus de personnes.
Mais Alexis Escudero, c'est pas complètement par hasard non plus qu'on se retrouve dans un système qui propose une solution technologique à un problème qu'il a lui-même créé. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent eu l'occasion de remarquer et de critiquer. Et d'ailleurs, pour faire cette critique, vous passez par un biais que je trouve intéressant. Vous rappelez l'épisode de la destruction des semences en Colombie. Il y a cela 3 ans à peu près, je crois maintenant, destruction massive de plusieurs tonnes de semences qui avaient été récoltées par des paysans, lesquels se retrouvaient, sans le savoir d'ailleurs, en complète infraction avec le nouveau traité qui liait la Colombie aux États-Unis et qui les obligeait à acheter les semences aux grands semenciers américains.
Effectivement, c'est une caractéristique du capitalisme technologique, capitalisme actuel, de vivre, de perdurer et de trouver les sources de sa croissance dans les dégâts qu'il a lui-même causés. On détruit les semences des paysans, on interdit l'utilisation des semences traditionnelles pour obliger les paysans à recourir aux semences Monsanto, aux OGM. Alors, effectivement, dans le livre, j'essaie de faire le parallèle entre cette situation-là et le fait que la pollution industrielle a détruit quelque part les semences humaines et que cette destruction ouvre au capitalisme les portes d'une
Gigantesque marché.
un gigantesque marché. En fait, c'est un marché qui se compte aujourd'hui en milliards de dollars. C'est un marché, on ne se rend pas compte, je pense, de l'ampleur de ce marché-là. Quand j'ai commencé à écrire le livre, j'étais impressionné du nombre d'entreprises qui sont dans ce secteur-là. Et il faut aller sur Internet, se connecter sur des sites de donneurs d'ovules, on appelle donneurs qui sont en fait des donneuses, mais des vendeuses d'ovules, puisque rien n'est gratuit en fait dans ce milieu-là. Il faut aller sur ces sites-là pour se rendre compte de l'étendue du phénomène. Et moi, je suis persuadé que la douleur des parents, elle a bon dos, mais que si la PMA existe aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout parce qu'elle engraisse des médecins, des généticiens, des banquiers en sperme, des directeurs de banques d'ovocytes, des juristes, des publicitaires. C'est vraiment un marché énorme. C'est un marché, comme tout marché, est complètement amoral. Sur ce marché, tout s'achète, tout se vend. Quand vous cliquez sur les sites dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez sélectionner des donneuses d'ovocytes en fonction de la couleur de leurs yeux, en fonction de la couleur de leurs cheveux, de leur poids, de leur mensuration.
C'est-à-dire que ce sont des catalogues avec des photos.
Ce sont des catalogues avec des photos. Il suffit de rentrer une adresse mail et on est connecté. On a accès aux photos d'elle en tant qu'adulte, mais d'elle aussi en tant qu'enfant, parfois les photos de la famille. On a accès à leur quotient intellectuel, leur niveau d'études, les antécédents médicaux. Sur plusieurs générations, on sait si le grand-père a eu une dépression, si la grand-mère avait un cancer, et jusqu'à des choses qui ont trait à la personnalité, voire sur certains sites au style vestimentaire, pour dire le niveau. Comme tout marché amoral, chaque différence qui promet au futur enfant des chances supplémentaires de réussite sociale dans la vie, par exemple, si la donneuse aurait un bac plus 8 et un QI de 160, il y a cette idée que forcément l'enfant sera plus intelligent et plus. Et donc on le vend plus cher. Aux USA, un ovule coûte entre 2 500 et 50 000 dollars
En fonction de ces critères-là.
en fonction de ces critères-là, effectivement. Évidemment, les femmes blanches, très diplômées, sexy valent plus cher. Du coup, on a un marché du luxe et on a un hard discount reproductif qui se développe. en Europe de l'Est ou en Inde, en Thaïlande, pays où ben, l'ovule d'une Thaïlandaise coûte beaucoup moins cher que l'ovule d'une Américaine, quoi. Et ce supermarché mondialisé, j'ai l'impression, du bébé, me fait dire une chose, c'est que on peut pas soutenir aujourd'hui la PMA ou la gestation pour autrui sans soutenir en même temps la marchandisation du corps des femmes, la marchandisation des gamètes et de la reproduction. Il est illusoire, il me semble, de défendre une PMA éthique ou non marchande ou gratuite. Ça, c'est le cheval de Troie avec lequel on essaie de faire accepter la PMA. Et je pense que c'est illusoire. Accepter la PMA et la GPA aujourd'hui, c'est accepter ce qui me semble être un des principes fondateurs, bah, du capitalisme aujourd'hui, c'est le fait que tout se vend et tout s'achète, quoi.
J'aimerais qu'on reste un peu, Alexis Escudero, dans ce grand bazar du beau bébé, comme vous l'avez appelé dans votre livre, avant qu'on en vienne à cette partie éthique que vous engagez. Est-ce qu'il y a l'équivalent pour les hommes de ces catalogues C'est-à-dire, est-ce que les hommes, qui sont donc donneurs de sperme, et d'ailleurs, il faut que vous nous expliquiez ce paradoxe, vous nous avez dit tout à l'heure, ce sont des donneuses ou des donneurs, mais en fait, rien n'est gratuit. Donc, qui gagne de l'argent là-dedans? À quel titre? Comment? Et je reviens quand même à ma question, est-ce que les hommes sont également vendus sur leur qualité physique et intellectuelle, ou est-ce que c'est différent?
Alors, les hommes sont également vendus sur leur qualité physique et intellectuelle. On a exactement de la même manière des catalogues d'hommes, le plus connu étant, si je ne me trompe pas, une entreprise danoise qui s'appelle Cryos Bank.
Quand on parle d'entreprise danoise, vous avez bien précisé que c'est mondialisé, ça veut dire que chacune de ces entreprises vend dans le monde entier et achète dans le monde entier.
Voilà. Alors, soit elles ont des franchises dans des pays étrangers, soit effectivement elles exportent dans tous les pays du monde, et on sait qu'il est possible de se faire livrer du sperme dans son pays, même si la législation locale interdit par exemple le recours à la PMA ou à l'insémination artificielle. Effectivement.
Il suffit de passer par la poste.
C'est ça. Il faut compter entre 500 et 2000 euros par exemple chez Cryos Bank selon la qualité du sperme et la quantité commandée. La différence avec les femmes, c'est que ben, le procédé pour les hommes est quand même beaucoup plus simple. Il faut savoir que un don d'ovule pour une femme, ça implique une stimulation ovarienne, donc c'est un traitement hormonal d'une quinzaine de jours, puis on récupère du coup les ovules sous anesthésie, souvent anesthésie générale. C'est quand même un traitement qui est assez lourd. Bon, les hommes ne sont pas confrontés à ça, et dans les deux cas, les donneurs sont rémunérés, puisque bon, en France par exemple, le don de sperme et le don d'ovule n'a pas le droit d'être rémunéré, mais c'est pas le cas de la plupart des pays qui sont les champions de ce marché, quoi.
Donc c'est rémunéré, mais j'imagine que pour une femme, elle le fait une fois, peut-être deux, mais pas plus, puisque vous avez décrit vous-même un processus assez lourd et qui a des conséquences.
Alors, j'ai beaucoup cherché hein, sur le sujet et on trouve pas tant d'informations. C'est assez difficile de savoir qui sont les donneuses, combien de fois elles donnent dans la vie, d'où elles sont issues. On sait que ce sont pas mal d'étudiantes, par exemple, qui vont vendre des ovules une ou deux fois parce que ben, elles ont besoin d'argent pour payer leurs études. Beaucoup de femmes pauvres, et notamment dans les pays du tiers-monde, qui trouvent aussi là un moyen de subvenir à leurs besoins. Mais j'ai assez peu d'informations plus détaillées que ça.
En tout cas, vous confirmez que c'est un processus lourd et qui a des conséquences physiques.
Oui, c'est un traitement qui est lourd. Et c'est pas anodin, en fait, à la différence d'un don de sperme qui l'est complètement, quoi.
Donc là, pour l'instant, on est resté dans je dirais le béaba de cette reproduction artificialisée. C'est l'APM à la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire fécondation in vitro, don de sperme, don d'ovule. Vous avez évoqué le cas de la grossesse de la gestation pour autrui, c'est-à-dire la location de ventre, ce qu'on appelle communément location de ventre. Là, dites-vous, on entre dans un schéma qui est assez souvent, là aussi, reproduit dans le monde industriel et économique qui est le nôtre, c'est celui de la délocalisation vers les pays pauvres ou vers les femmes pauvres des pays riches.
Effectivement, je pense qu'il faut bien saisir, c'est que la gestation pour autrui, c'est pas un à côté de la PMA. La gestation pour autrui, c'est une partie intégrante de la procréation médicale assistée. Il n'y a pas de GPA sans PMA. C'est-à-dire que il est rarissime que Un couple voulant recourir à la gestation pour autrui envoie l'homme du couple avoir une relation sexuelle avec la mère porteuse. Ce qui se produit dans la plupart des cas, c'est une insémination artificielle, donc une fécondation in vitro, puis du coup un transfert d'embryon dans l'utérus de la mère porteuse. Ce que vous disiez sur la délocalisation est vrai. Effectivement, comme tout marché, on recourt toujours au plus bas prix. C'est-à-dire qu'il est toujours moins cher de recourir à une mère porteuse indienne qu'à une mère porteuse américaine. Et on a vu ces dernières années ouvrir en Inde ce qu'on appelle des usines à bébés, qui sont des centres où on entasse des femmes à 10 par chambre, où elles sont surveillées tout au long de leur grossesse et où elles portent les enfants, généralement pour des riches occidentaux. Ça se passe en Inde, ça se passe également en Europe de l'Est, ça se passe en Thaïlande plus récemment, on en a beaucoup entendu parler cet été.
Oui, c'est le cas de cette femme qui a donné naissance à des jumeaux, dont un trisomique, et qui s'est vue refuser le bébé trisomique par les parents qui avaient commandé en quelque sorte leur enfant.
C'est exactement ça. Et ça a donné lieu, notamment dans la presse française, à une nouvelle offensive en faveur de la gestation pour autrui, et notamment en faveur d'une GPA éthique ou conviviale, comme si en fait on pouvait produire des bébés labellisés commerce équitable, quoi.
Peut-être je vais profiter de votre émotion, Alexis Escudero, pour vous faire ajouter une information qui m'a fait sursauter, moi aussi, quand je l'ai découverte dans le livre. C'est que les personnes qui aujourd'hui ont recours à cette procréation médicale assistée, à cette gestation pour autrui, ne sont pas nécessairement, et peut-être même pas majoritairement, des couples dont l'un au moins est stérile. Ce sont des gens qui préfèrent choisir leur bébé.
Je pense que pour l'instant, ils sont minoritaires, mais on a vu ouvrir récemment aux États-Unis des centres dont la majorité des clients sont effectivement des clients fertiles et qui préfèrent recourir à une fécondation in vitro, et bien tout simplement pour designer au mieux leur progéniture. Comment ça fonctionne? Alors, tout à l'heure, je vous parlais, on a beaucoup parlé d'insémination artificielle et de tout ce qui est finalement. Comme pour les animaux, en fait, la sélection des reproducteurs. C'est-à-dire que les banques de sperme sélectionnent les gens qui ont le droit ou pas de donner leur sperme. Les banques d'ovocytes font pareil. Et la sélection, parfois, c'est une sélection qui est sévère quand même, et qui aussi traduit des choix. Cryos Bank, la banque dont je vous parlais tout à l'heure, refuse les dons de sperme d'hommes roux depuis 2011, puisque, a priori, le roux
Les
n'est
dents
pas.
de sperme de qui?
D'hommes roux.
Ah, d'homme roux?
Oui. Le roux n'est pas assez vendeur sur le marché du gamète. Et donc, si vous êtes roux, vous ne pouvez plus donner votre sperme à Cryos Bank. Donc, on a d'un côté une sélection des reproducteurs, de la même manière qu'on sélectionne des taureaux, qu'on sélectionne des animaux de reproduction, quoi. Ce dont je voudrais parler, c'est non plus la sélection des reproducteurs, mais l'étape d'après, qui est en fait la sélection des embryons. Il faut savoir que dans le cadre d'une fécondation in vitro, la femme subit une stimulation ovarienne, elle produit plusieurs ovules. Ces ovules sont récoltés, puis ils sont fécondés ensuite dans des éprouvettes. Et avant de les implanter, ces embryons, eh ben, comme on a plusieurs embryons, on va choisir celui qu'on implante.
C'est le diagnostic préimplantatoire,
C'est ça.
DPI.
C'est le DPI. Et forcément, grâce au progrès, avec des guillemets, de la génétique, on sait sélectionner les embryons sur des critères toujours plus poussés. On sait assez facilement déterminer le sexe de l'enfant. Beaucoup des couples qui recourent à ces techniques-là le font pour diagnostiquer le sexe de l'enfant. Un couple qui a eu trois filles et qui veut absolument un garçon va au Fertility Institute aux États-Unis et fait une fécondation in vitro. Ensuite, on sélectionne les embryons qui sont des garçons, on les implante à la femme et elle donne naissance à un garçon. On sélectionne la couleur des yeux. Et on s'est déjà diagnostiqué près de 400 maladies, plus ou moins graves. Moi, ce qui me semble, c'est que on se dirige vers un monde où les riches, les personnes qui ont les moyens, auront de plus en plus accès à des technologies de sélection de leurs embryons. Il faut savoir que les recherches actuelles sur les cellules souches laissent penser qu'on sera très vite capable de produire beaucoup plus d'ovules. Que juste aujourd'hui on produit une dizaine, on sera capable dans un futur assez proche d'en produire des centaines, voire des milliers, et donc d'exercer la sélection sur un nombre bien plus important d'ovules. Je pense que dans ces prochains temps, on aura un monde où les riches auront les moyens de se payer des outils de sélection plus poussés de leur progéniture. Une progéniture qui sera sélectionnée pour être plus belle, plus intelligente, pour correspondre en fait au canon d'Hollywood et du marché du travail.
Vous dites et du marché du travail, Alexis Escudero, et j'aimerais qu'on revienne sur cette phrase que vous avez glissée tout à l'heure sur la sélection des reproducteurs animaux. Et de fait, ce qui est très intéressant, c'est d'apprendre, toujours dans votre livre, que tous ces processus, tous ces procédés de sélection, de design, comme vous l'appelez, de choix du reproducteur et des embryons, en fait, c'est la médecine vétérinaire qui les a d'abord découverts. Vous avez cette phrase qui revient à plusieurs reprises, ce qu'on fait aux animaux, on le fera aux hommes.
Exactement. En fait, les premières recherches sur la génétique, sur l'amélioration des cheptels, sont mises en place à la sortie de la guerre de 39-45, en France notamment. Et j'ai l'impression qu'on assiste à chaque fois à un transfert de ces technologies des animaux vers les humains, avec un décalage de quelques années, quelques dizaines d'années.
Oui, mais dites-nous en plus sur ce qui s'est passé dans le domaine animal, parce que c'est intéressant justement, pour faire cette comparaison que vous établissez, c'est intéressant de savoir de quoi on parle. Dans le cas du cheptel bovin, ça a été présenté au départ comme une proposition qui allait dans le sens d'une facilitation du travail des paysans.
Au début, effectivement, c'est présenté comme un choix laissé aux agriculteurs, sauf que petit à petit, les agriculteurs perdent le contrôle et les savoir-faire en fait, traditionnels de sélection, de reproduction, au profit de biologistes, de généticiens, et notamment de gens qui travaillent à l'INRA, qui s'approprient en fait, ces savoir-faire et qui ensuite contrôlent l'ensemble du marché, ont le monopole en fait, de la reproduction animale.
Et surtout finissent par l'imposer.
Ils finissent effectivement par l'imposer, puisque on sait que en 2015, les éleveurs de chèvres, de moutons et de vaches seront obligés de recourir à ce qu'on appelle la voie mâle, c'est-à-dire de recourir à des reproducteurs certifiés par l'administration compétente sur la base de leur génome. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une technique qui était une possibilité et à laquelle les agriculteurs ont quand même recouru, on ne les a pas forcés non plus, ont quand même recouru de manière plus ou moins volontaire, on aboutit à une technique qui est imposée et il sera bientôt interdit de faire se reproduire ses propres animaux chez soi sans un contrôle des services vétérinaires.
Il y a eu plus ou moins un recul pour l'instant, en tout cas, sur cette loi. Il n'est pas sûr qu'elle passe encore, mais vous avez raison tout de même de souligner ce point, parce que même si elle ne passe pas en 2015, rien ne dit qu'elle ne passera pas en 2017 ou en 2020. Je trouve que ce qui est très intéressant dans ce que vous dites là, Alexis Escudero, c'est qu'effectivement, ce qui était au départ vraiment vécu comme un progrès par les agriculteurs, puisque un bon taureau pouvait saillir, je crois, 200 vaches quand il était en liberté. En un an, on passe à 1000 quand on est en étable et à des centaines de milliers. Et effectivement, la perte de la biodiversité, ça passe aussi par là. C'est-à-dire qu'à force de sélectionner le bon reproducteur, on s'est retrouvé avec une sorte de clonage du cheptel bovin et du cheptel animal en règle générale, qui, en effet, est en passe de devenir obligatoire. Et peut-être ce qui est important à souligner là, c'est moi qui le dis, mais c'est vous qui l'écrivez tout de même, c'est qu'il y a prise de pouvoir par l'État sur le travail des agriculteurs, puisque vous dites que les agriculteurs se retrouvent finalement dans une position de fonctionnaires qui sont payés pour gérer la vie d'un cheptel qui a été sélectionné, choisi par l'État à travers ces différents organismes que sont l'INRA et les autres.
Et c'est intéressant de voir aussi que ce sont parfois les mêmes personnes qui ont travaillé à l'amélioration des techniques de reproduction chez les animaux, qui ensuite, après s'être fait la main sur des génisses, transfèrent leurs compétences chez les êtres humains. Je pense à Jacques Testard, par exemple, qui a commencé sa carrière sur des génisses et qui l'a poursuivi en réalisant la première fécondation in vitro avec René Friedman en France, sur une femme. D'ailleurs, je fais un lien avec ce que je disais tout à l'heure. Le diagnostic préimplantatoire est inséparable de la fécondation in vitro. Il n'y a pas de fécondation in vitro sans diagnostic préimplantatoire, puisque nécessairement, quand on a plusieurs embryons, on va en choisir un. Et il serait trop bête de choisir celui qui...
N'importe lequel.
Voilà. Et en même temps, le diagnostic préimplantatoire augmente les chances de réussite de la fécondation in vitro, puisqu'on a sélectionné aussi l'embryon le mieux portant. Il est illusoire. Et je pense à ça, parce que je parlais de Jacques Testard, de penser s'opposer aujourd'hui au diagnostic préimplantatoire et à l'eugénisme si on continue de soutenir la fécondation in vitro.
La fécondation in vitro, c'est seulement un des outils dans la merveilleuse boîte à outils de ce qui nous prépare une humanité améliorée, différente, autre.
C'est un des outils, mais il me semble que c'est celui qui fait le... Il y a un effet de seuil, si vous voulez, entre l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. Pourquoi? Parce que la fécondation in vitro place l'embryon à portée de main du biologiste. C'est-à-dire que sans fécondation in vitro, on ne peut pas sélectionner, manipuler un embryon. Avec la fécondation in vitro, on a le diagnostic préimplantatoire et on ouvre la porte à la manipulation génétique des embryons. On disait tout à l'heure, ce qu'on fait aux animaux, on le fait aux humains. On sait aujourd'hui manipuler génétiquement, on produit des saumons génétiquement modifiés qui ont une croissance plus rapide, on produit des porcs génétiquement modifiés dont les déjections seraient moins polluantes. On commence à savoir techniquement à produire des embryons humains génétiquement modifiés. Pour l'instant, les lois font que les recherches en la matière sont quand même limitées. Mais techniquement, c'est possible. Et je pense aussi que sont des directions que on prendra, peut-être dans quelques années, mais tout porte à croire que on ira dans cette direction-là.
D'autant plus qu'à vous écouter, Alexis Escudero, les recherches qui ont déjà été effectuées sur les animaux sont toutes en quelque sorte emballées dans un joli paquet qui présente un bénéfice pour nous. Un saumon qui grandit plus vite, ben c'est un plus gros saumon sur notre table. Un porc qui fait des déjections moins polluantes, c'est moins de pollution dans l'environnement, c'est un monde plus propre, plus écologique en quelque sorte. Et de fait, j'aimerais que vous nous parliez maintenant de la façon dont le discours a pu s'inverser radicalement, c'est-à-dire qu'alors que l'eugénisme avait été tout de même très vilipendé, était même devenu tabou après la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, sous couvert d'amélioration, au pluriel, on se retrouve dans un discours qui est totalement eugéniste en fait.
Bon, je ne vais pas refaire ici toute l'histoire de l'eugénisme, mais le passage le plus horrible de cette histoire, c'est évidemment le nazisme, les camps de concentration et ce qu'on avait appelé les Lebensborn, qui étaient des centres où on fabriquait les enfants de la race aryenne.
Fabriquer, c'est-à-dire que c'était des sortes de cliniques pour des femmes de race aryenne qui avaient conçu des enfants avec des soldats ou des SS, des
Voilà,
soldats
c'est
allemands ou
ça.
des SS.
C'est ça. Et ces mesures-là, pendant des années, elles ont jeté un discrédit assez fort sur l'eugénisme. On a condamné l'eugénisme et on a affirmé la primauté de la dignité humaine, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Et ces dernières années, j'ai l'impression que ce refus de l'eugénisme commence à s'affirmer de moins en moins. Et on a, dans la sphère scientifique aujourd'hui, des gens qui commencent à dire que finalement, eh bien, il y aurait deux sortes d'eugénisme. Il y aurait un eugénisme totalitaire qui serait imposé par l'État. Et bon, celui-là, on n'en veut pas. Celui-là, on n'en veut pas. Mais il y aurait aussi, en fait, un eugénisme libéral qui serait, eh bien, la liberté pour les parents de choisir le design de leurs futurs enfants. Et je pense que cet eugénisme dit libéral ne sera jamais synonyme de liberté. Pour plusieurs raisons. D'abord, la liberté qui s'exprime dans l'eugénisme, c'est une liberté de consommateur. J'ai écrit un moment dans le bouquin, les hommes et les femmes sont libres de recourir à des Barbie et Ken présélectionnés, standardisés. On aura le droit de sélectionner, de choisir parmi les modèles préfabriqués, standardisés par l'industrie de la procréation.
C'est-à-dire que ce serait un choix contraint, en fait, déjà déterminé.
C'est un choix contraint et, si vous voulez, la liberté du consommateur pourra s'exercer sur des détails marginaux, la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Et puis, la discrimination se fera sur l'argent. Les riches pourront sélectionner les critères les mieux, puis les pauvres se contenteront des epsilon, pour reprendre le meilleur des mondes. Je dirais aussi que cet eugénisme libéral ne sera jamais de la liberté pour deux raisons. D'abord parce que dans un monde où on autorise la sélection génétique des embryons, ceux qui la refusent condamnent leur progéniture à être une sous-race, une sous-espèce, à être les chimpanzés du futur. Donc à partir du moment où on ouvre ces technologies-là, et on permet aux gens d'y recourir, on contraint quasiment l'ensemble de la population à y recourir, sous peine de se voir relégué, quoi. Il y a une autre idée aussi que j'essaie de défendre dans le livre, qui est que je pense que cet eugénisme libéral est une illusion, quelque chose qu'on vend comme ça pour donner aux gens l'impression qu'ils auront la liberté, mais qu'en réalité, jamais les États et l'industrie ne laisseront un tel outil de pouvoir aux mains des citoyens ou aux mains des consommateurs. On sait qu'en Chine, aujourd'hui, l'Institut de génétique chinois lance des recherches sur les déterminants génétiques de l'intelligence. Pour ça, ils analysent l'ADN de 2200 personnes considérées comme des génies parce qu'elles ont un QI de 160 et plus. Et l'idée, c'est de trouver si dans les gènes, on peut détecter des déterminants génétiques de l'intelligence. Avec cette idée que plus tard, on pourrait, au sein des couples, promouvoir le diagnostic préimplantatoire, donc faire en sorte que tous les couples produisent des enfants par fécondation in vitro et sélectionnent parmi les embryons potentiels, parmi les combinaisons génétiques issues du couple, les embryons qui seront les plus intelligents. Et déjà, on calcule que tant d'augmentation de points de QI chez la population représente tant d'augmentation de la croissance économique. Ça, c'est un côté, ça va être le côté économique. Et effectivement, selon le théorème de Fiorazzo, si les Chinois, si on ne le fait pas, les Chinois vont le faire. Donc si les Chinois le font, on le fera. À partir du moment où un des États décidera de faire ces choix-là, les autres seront aussi obligés de les faire.
Donc faisons-le les premiers.
Faisons-le les premiers, bien sûr. Et si je peux rajouter encore, il y a cet argument économique qu'on va pouvoir sélectionner, que les États voudront sélectionner les populations pour améliorer la croissance et la productivité de leur bétail. Il y a aussi cette idée liée à la pollution et au développement durable, où on entend des chercheurs, notamment américains, qui commencent à réfléchir à l'idée que en sélectionnant parmi les embryons les individus qui sont petits, par exemple, eh bien, on produirait des hommes et des femmes de petite taille qui consommeraient moins de dioxyde de carbone ou qui résisteraient davantage au réchauffement climatique. Voilà. La manipulation génétique des embryons, dans ce cas-là, elle est rendue presque inévitable par les conditions de vie que le capitalisme a créées, quoi.
Alexis Escudero, à plusieurs reprises en lisant votre livre, je me suis dit, il parle simplement d'une poignée de fous délirants qui se racontent des histoires absolument démentes, et tout ça n'a pas de réalité dans notre monde, dans notre quotidien. Malheureusement, à chaque fois que je me disais ça, pratiquement à la page suivante, vous apportiez une citation d'une personnalité reconnue, personnalité politique, leader d'opinion, journaliste de grands journaux nationaux, chercheur scientifique dans les plus grands instituts du monde entier, qui sont sur ces discours enthousiastes autour de ce que vous êtes en train de nous décrire.
On assiste depuis une dizaine d'années, je dirais, à une offensive qui vient de plusieurs endroits en même temps en faveur de l'artificialisation de la reproduction. Et effectivement, c'est une propagande en faveur de l'eugénisme, en faveur du transhumanisme. Et on connaît aux États-Unis ce qu'on appelle les transhumanistes. Les transhumanistes, à l'origine, espèce de secte d'illuminés issus du mouvement hippie et passionnés d'informatique qui se mettent à rêver à une post-humanité. Pour eux, l'humanité est dépassée, périmée, et l'homme doit prendre en main sa propre révolution. Et grâce à la technologie, on va améliorer l'humain. Alors on l'améliore comment? par le biais des implants électroniques, mais aussi par le biais de la sélection génétique et de l'amélioration génétique, la manipulation génétique. Il se trouve qu'aujourd'hui, les transhumanistes représentent aux États-Unis beaucoup plus qu'une secte. Ce ne sont plus quelques dizaines d'individus, ce sont des gens qui occupent des postes dans les plus gros campus américains et dans les plus grandes firmes américaines. Je pense notamment à Ray Kurzweil, qui était conseiller de l'armée américaine, qui a été décoré pour ses travaux scientifiques.
Décoré par Clinton.
C'est ça, décoré par Clinton et embauché très récemment par Google pour diriger une équipe de recherche sur l'intelligence artificielle. Et ces gens-là cultivent un fantasme de désincarnation du corps. Leur idée, c'est que le corps est une prison dont il faudrait s'affranchir, et on s'en affranchit par le biais de la technologie. L'horizon de ces gens-là, c'est ce qu'ils appellent le mind uploading, qui est le téléchargement de la conscience dans un ordinateur, et ils ont déjà prévu que, autour de 2030, on vivra cet instant qui s'appelle la singularité, où un ordinateur sera aussi puissant qu'un cerveau humain, et à partir de ce moment-là, on pourra transférer la conscience d'un humain, la télécharger sur un ordinateur. Je m'amuse un peu dans le livre à montrer que c'est, en fait, ils ne font que réactualiser un fantasme religieux qui était celui des manichéens, puis celui des cathares, en fait. C'est l'idée que.
Manichéen, c'est 200 et quelques après, enfin, de notre ère, c'est ça, c'est le tout début.
C'est ça, c'est le début du 3e siècle après Jésus-Christ. Et cette idée que l'être humain n'est que pur esprit enfermé dans un corps. Bref, ces gens-là ont une réelle influence. Ils orientent aujourd'hui les programmes de recherche américains, que ce soit des programmes de recherche publics ou des programmes de recherche privés. Google investit énormément d'argent en ce moment dans les recherches sur la génétique et sur l'intelligence artificielle. En France, les transhumanistes assumés existent assez peu. Ils sont pas très présents, en tout cas en tant que tels. En revanche, on a de plus en plus de chercheurs qui assument des positions transhumanistes en l'assumant plus ou moins explicitement. Je pense à des gens comme Laurent Alexandre, qui a été le fondateur de Doctissimo, puis qui s'est investi il n'y a pas longtemps dans une firme qui s'appelle DNA Vision, qui est le leader européen de séquençage ADN. Il était interviewé par Attali, si je ne me trompe pas, cet été. Laurent Alexandre, par exemple, passe sa vie à promouvoir l'amélioration génétique, le transhumanisme. Il tient des tribunes dans le monde très régulièrement. Je pense à Miroslav Radman, qui est un biologiste aussi très réputé, hein, membre de l'Académie française des sciences, et qui, lui, défend explicitement que la question de l'être humain génétiquement modifié va se poser, et que, quelque part, pour lutter contre la décadence de l'espèce, il va falloir recourir à la sélection génétique et à la manipulation génétique.
Oui, lui, son postulat, c'est que la forte baisse de la mortalité infantile fait que la race se dégénère, en quelque sorte. Et donc, il va falloir recourir à des méthodes artificielles pour redresser tout ça. Vous dites, Alexis Escudero, que le transhumanisme n'est plus une secte, c'est la religion de la technocratie. Ça me paraît une phrase importante. Et puis, vous posez aussi une question qui est essentielle, c'est quelle relation entre ces adultes qui déjà aujourd'hui choisissent et qui vont demain choisir encore davantage leurs enfants et les enfants ainsi créés?
Effectivement, je me suis interrogé sur qu'est-ce que ça signifie pour un individu d'avoir été déterminé génétiquement. Il y a chez tous les propagandistes actuels de l'eugénisme, je pense notamment à Laurent Ségala, un discours comme quoi, en fait, nous subissons déjà, nous sommes déjà déterminés par notre éducation, pourquoi ne serait-ce pire d'être déterminé par, d'être génétiquement déterminé? Il y a plusieurs choses que j'essaie de mettre en avant. Une des choses, c'est que le poids des exigences des parents sur leurs enfants pèse déjà très lourd sur des enfants qui ont été conçus naturellement aujourd'hui et qui n'ont pas été sélectionnés génétiquement. Et j'essaie d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait peser sur des enfants qui ont fait l'objet d'un investissement matériel, financier, affectif, pour être génétiquement manipulé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a manipulé son enfant, dans l'hypothèse où on pourrait trouver les déterminants génétiques de l'intelligence, en tout cas on pense qu'ils existent, et on a sélectionné son enfant pour qu'il soit génétiquement intelligent, il se trouve que finalement il réussit pas bien à l'école. Imaginez le décalage et la violence, en fait, pour les enfants. L'autre chose aussi, c'est, j'ai l'impression qu'on s'attaque à la responsabilité des enfants ainsi créés. C'est-à-dire que quand on a été génétiquement déterminé pour faire quelque chose, on ne peut plus revenir dessus. À la différence d'une éducation, qu'on continue de subir toute notre vie, mais qu'on peut remettre en cause, qu'on peut critiquer, contre laquelle on peut se battre, quelque part, on ne transforme pas, on ne revient pas sur son génome.
Peut-être pour terminer, Alexis Escudero, une autre de vos remarques, celle sur la haine du corps et la haine de l'humain qui court en filigrane de tous ces fantasmes d'humanité supérieure, améliorée, post-humaine, et je ne sais trop quoi.
Cette haine de la nature, on la trouve évidemment chez les transhumanistes, on la trouve évidemment chez tout ce courant du féminisme qu'on a appelé le féminisme cyborg, qu'on pourrait aussi appeler le technoféminisme.
Pourquoi est-ce que vous amenez maintenant les féministes ? Il faut que vous l'expliquiez là.
Ah. Il y a un courant qui était assez minoritaire du féminisme américain, dans les fins des années 70, début des années 80, qui considère finalement, comme les transhumanistes, mais avant les transhumanistes, que l'égalité entre les hommes et les femmes, on ne peut l'atteindre que grâce à la technologie. Puisque la technologie permettra aux hommes et aux femmes d'engendrer indistinctement, ou permettra soit aux hommes d'engendrer eux-mêmes, soit à des machines d'engendrer, notamment c'est le début des réflexions sur l'utérus artificiel, des machines dans lesquelles on place un embryon et qui produisent un bébé 9 mois plus tard. Bon, c'est cette idée-là, elle court depuis la fin des années 70, et les transhumanistes se nourrissent de ces idées-là. Il y a certains transhumanistes qui développent ce qu'ils appellent le post-gendérisme, l'idée qu'on pourra dépasser le genre en abolissant la différence entre les hommes et les femmes, et qu'on abolira cette différence grâce à la technologie.
C'est là qu'ils rejoignent effectivement les féministes cyborgs qui, elles aussi, souhaitent abolir toutes ces différences et suggèrent entre autres aux femmes de congeler leurs ovules lorsqu'elles ont 20 ans pour pouvoir se les réimplanter au-delà de la ménopause.
Là, je crois que c'est deux problèmes différents. Il n'y a pas que les féministes cyborgs qui proposent la réimplantation des ovules. Je crois que c'est quelque chose de plus large, cette question de congeler les ovules pour les réimplanter après la ménopause. Là, les féminismes cyborgs, il y a vraiment cette idée que la technologie permettra de dépasser le genre et donc les rapports de domination entre les hommes et les femmes. Bon. Si j'essaie de prendre un peu de recul sur cette idée de nature, en fait, cette haine de la nature, donc je disais, elle est chez ces transhumanistes, elle est chez ces féministes cyborgs. Plus largement, il me semble qu'elle est chez une énorme partie de la gauche. Alors, je m'explique. La nature, c'est, de natura en latin, ce qui naît. C'est l'inné, ce qui est donné à la naissance, qui n'est ni socialement construit, ni résultant d'un artifice. La nature, elle existe, elle nous impose des contraintes. Deux hommes seuls ne peuvent pas faire un enfant, une femme seule ne peut pas faire un enfant, ce sont des contraintes naturelles. Cette nature-là, il ne faut pas la confondre avec cette idée d'un ordre naturel, qui est là plutôt une idée qui serait défendue par la droite ou les conservateurs. L'idée que une nature quelque peu religieuse, en fait, devrait dicter sa loi à la société des hommes. Et j'ai l'impression qu'à gauche, on rejette violemment, et à raison, cet ordre naturel, mais qu'en jetant cet ordre naturel, on a jeté la nature avec l'eau du bain. Et du coup, pour critiquer une droite essentialiste qui en fait légitime les inégalités sur des présuppositions d'ordre naturel, on rejette toute idée de nature. Et la nature devient le mal. Et bon, ce qui est artificiel est mal ce qui est naturel. Moi, l'idée que je défends, c'est qu'en fait, la nature n'est ni bonne ni mauvaise et qu'elle n'a pas à intervenir dans ces débats-là, en fait. On doit se poser la question d'un point de vue politique, d'un point de vue moral, si on veut. Est-ce que oui ou non, on veut de la procréation médicale assistée ? Est-ce que oui ou non, on veut vivre dans un monde où on sélectionne les embryons, où on manipule des embryons ? Est-ce que oui ou non, on veut vivre dans ce monde-là, quoi ? et la nature n'a rien à voir là-dedans.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez toutes les coordonnées pour le livre d'Alexis Escudero, La reproduction artificielle de l'humain, paru aux éditions du Monde à l'envers. Vous retrouverez également notre revue de web hebdomadaire et vous pouvez toujours nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage, Éric Boisset, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.